existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, votre émission de culture geek. C'est le jeudi en direct 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment vas-tu?
Ça va.
Alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
Eh bien, on va commencer avec l'actualité jeux vidéo, ensuite on enchaînera sur un jeu de plateau pour parler par la suite de forum RP, puis d'une bande dessinée et de cinéma aussi avec notre petite rubrique. Que sont-ils devenus ?
Oui, qu'est-elle devenue cette actrice de film de fin des années 90 ?
Ok, et puis on finira avec une série.
Une voilà. Série. D'accord.
Je sais pas s'il y a une interdiction sur cette série d'ailleurs.
Peut-être.
Je ne crois pas, non.
D'accord.
On va éviter de mettre les jeunes enfants devant quand même.
Eh bien, c'est parti pour une heure d'émission. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 22 janvier de A Fisherman's Tale, disponible sur PC et PS4. C'est développé par Innerspace VR et édité par Vertigo Games. C'est un jeu d'aventure réflexion en réalité virtuelle. Incarnez Bob, une marionnette de pêcheur qui vit seul dans une petite cabane en toute insouciance. Après avoir entendu un avis de tempête, vous devez monter en haut du phare et allumer la lumière. Mais en quittant votre cabane avec l'aide de mystérieux acolytes, vous vous rendez compte que ce qui vous attend dehors n'est pas du tout ce que vous croyez. A Fisherman's Tale, c'est disponible en VR sur PC et PS4. La sortie le 23 janvier de Unruly Heroes, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Magic Design Studios. C'est un jeu d'action-aventure. Le parchemin sacré qui maintenait l'harmonie du monde a été brisé et ses morceaux dispersés. Désormais, d'étranges et terrifiantes créatures sèment la discorde et le chaos dans toutes les contrées. Incarnez quatre improbables héros que tout oppose. Rassemblez les morceaux de parchemin sacré éparpillés sur le chemin vers l'ouest et parcourez des mondes extraordinaires en solo ou en coop pour délivrer d'innombrables créatures de leur malédiction. Unruly Heroes, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 24 janvier de Pikuniku, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Arnaud de Bock, Rémi Forcadell, Alan Zucconi et Callum Bowen. Et c'est édité par Devolver Digital. C'est un jeu d'aventure action puzzle qui se déroule dans un univers joyeux, absurde et étrange à la fois. Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. Aidez ces curieux héros à surmonter les épreuves, démasquer un sinistre complot et commencer une drôle de petite révolution dans cette étonnante aventure dystopique. Résolvez des puzzles et retrouvez-vous en famille ou entre amis pour vous amuser et relever ensemble les défis grâce au niveau en mode multijoueur. Pikuniku, c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite tu nous parleras d'un jeu...
Un jeu de plateau.
De plateau. Voilà, très bien. Tu n'en dis pas plus.
Non.
Tu laisses le mystère planer.
C'est ça.
On écoute JJ72 avec un titre qui me semble de rigueur en ce moment, qui s'appelle Snow.
À choisir Sakai.
Snow, neige, voilà. Oui, on a eu un peu de
glace,
neige.
Là, maintenant.
On écoute donc JJ72 et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Élodie.
Oui, j'attendais que tu me lances.
À toi l'honneur de nous parler d'un jeu de plateau.
Oui, un jeu qui s'appelle Horreur, je vais pas le dire à l'anglaise, Horreur à Arkham. Donc nous sommes à Arkham, 1926, la ville de la célèbre université bibliothèque qui semble paisible. Pourtant, d'indicibles créatures ont bien trop profité de portails entre les mondes pour reconquérir cette terre qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Les joueurs seront-ils assez malins pour déjouer le retour des grands anciens? Alors, Horreur à Arkham, c'est quand même un jeu pour des joueurs qui aiment jouer.
D'accord.
des joueurs qui ont déjà joué, quand même.
Il y a donc plus d'une demi-heure d'explication de règles.
Alors, c'est compliqué parce que moi, en plus, j'ai joué sur un jeu qui était en anglais. Donc, il y avait parfois des petites précisions de vocabulaire parce que mon anglais n'est pas impeccable, mais là, c'est quand même du vocabulaire de jeu, puis du vocabulaire un peu particulier. Mais c'est surtout un jeu qui dure très longtemps, on va dire environ 2h30, voire plus.
D'accord.
Donc, faut prévoir, faut aimer. Il y a un petit côté jeu de rôle. En fait, donc c'est un jeu coopératif. On joue tous ensemble. Le but, c'est de vaincre le grand Cthulhu.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, nous sommes dans l'univers de H.P. Lovecraft, qui est un écrivain qui a donc écrit notamment le mythe de Cthulhu. Il n'a pas écrit que ça, mais il a écrit, on le connaît beaucoup pour ça. Qui est en fait un grand ancien, une espèce de divinité. Et
terrible, qui rend fou.
Pardon ?
Terrible, qui rend fou.
Oui, qui rend fou. Et d'ailleurs, du coup, vous allez incarner un personnage. Donc au départ, on choisit son personnage, qui évidemment a une particularité, quelque chose qu'il fait différemment des autres. Différents points de force, de réflexion, mais aussi de santé mentale.
Oui.
Puisqu'on peut vite devenir fou dans ce genre de monde-là. Et donc, on va devoir essayer de trouver différentes choses qui vont nous aider normalement à vaincre toutes ces créatures qui vont effectivement sortir de portails. Et à chaque tour de jeu, ça va fleurir, des portails qui vont s'ouvrir et du coup, des monstres à combattre. Et c'est pas facile du tout. En fait, c'est un jeu, j'ai l'impression, en tout cas, moi, ma première expérience de jeu, c'est que on gagne pas.
C'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué. En plus de ça, nous, on a joué avec une extension. Et c'est un jeu qui peut effectivement durer même encore bien plus de 2h30 si vous rajoutez les extensions. Des extensions, j'en ai dénombré à peu près 8.
Ah oui, quand même.
Il y a la Malédiction du Pharaon Noir en édition révisée, parce qu'il y a une autre édition. Donc en plus, on peut même jouer à l'autre édition si on veut. L'horreur de Miskatonic, Le Rôdeur devant le Seuil, L'horreur d'Isthmus, La Chèvre Noire des Bois, L'horreur de Kingsport, Le Roi en Jaune et L'horreur de Dunwich. Donc, par contre, c'est un jeu du coup qui se renouvelle beaucoup.
C'est que des horreurs en fait. Hein.
Horreur à Arkham, le jeu principal. Oui. Donc oui. Donc effectivement, si on met plusieurs extensions tout de suite, ça peut durer
trois jours
plus longtemps. en tout cas, au moins, ouais, ça peut. Enfin, là, je crois que j'ai des amis. Je me demande s'ils n'ont pas fait une partie qui a duré au moins 6 heures.
Ah oui, oui. D'accord.
Mais c'est prenant malgré tout. Hein. Mais faut savoir qu'on se lance pour une longue partie. Moi, je le savais déjà. Juste là, on a mis une extension. Et en fait, effectivement, le jeu dure assez longtemps. Donc, c'est quand même plaisant. Enfin, moi, c'est un univers que j'aime bien. J'aime bien Lovecraft. J'aime bien Cthulhu. Alors, ça se joue de 1 à 8 joueurs. Évidemment, plus on est de joueurs, plus ça va durer. Hein. Et plus vous avez de chances de réussir.
Alors, prenez les 8 extensions et les 8 joueurs.
Alors,
et
je
là,
sais pas.
Vous en avez
au
moins.
C'est ça que je ne sais pas si on peut mélanger toutes les extensions. J'aurais dû me renseigner là-dessus. Je ne sais pas si on peut tout mélanger. C'est à partir de 12 ans. Et puis, ça dure très longtemps.
Ok.
Mais c'est un jeu sympathique. Si vous avez l'habitude de jouer et si vous cherchez un autre jeu, si vous avez aimé le mythe, aimé lire le mythe de Cthulhu, Horreur à Arkham est pour vous.
Très bien, ok. Merci Elodie. On écoute Les Innocents avec J'ai couru et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine et je vous emmène à l'hôtel. Voilà, moi je suis comme ça. Je vous emmène à l'hôtel comme ça. Voilà, on écoute donc Les Innocents, J'ai couru, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading.
Oui, 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 vous êtes bien dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On parle maintenant du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, où je vous emmène donc au Mystic Swan. Perdu dans le Maine, le Mystic Swan Hotel s'élève, un lieu select où jeux, trafic et charme sont à la portée des invités notables. Alors c'est un forum qui est inspiré de divers films comme Sucker Punch, Maison Close, Eden ou Neon Demon. Voilà, un petit mélange de tout ça. Un forum qui n'est pas très très vieux puisqu'il date du 17 décembre 2018, donc il a un petit peu plus d'un mois, mais il y a quand même déjà 25 membres enregistrés. Alors au niveau des graphismes, plutôt sobres, un mélange de clair et de sombre à la fois, sur les tons de gris. Vous avez un petit guide débuté sur les forums RP. C'est vrai que tout le monde ne le met pas, mais là pourquoi pas, ça vous explique ce qu'est vraiment un forum roleplay et comment on fait donc des roleplays dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer dans cet hôtel? Alors, il y a plusieurs groupes. Tout d'abord, le groupe des Guardians. Donc, ce sont les gardiens de l'hôtel et ce sont majoritairement des hommes. Vous avez le groupe des Swans. Donc, ça, c'est plutôt des femmes qui ont été enrôlées de force ou non au sein de l'hôtel pour être danseuses, chanteuses ou autres comédiennes. Enfin, en tout cas, un art du spectacle au sein de cet hôtel. Et puis vous avez le groupe des Jewels. Alors elles accueillent, elles servent les invités, les clients, les guests, comme on les appelle. En gros, ce sont des prostituées. Voilà. Et puis vous avez le groupe des Shades, donc qui s'occupe de l'entretien de l'hôtel. Et enfin le groupe des guests, donc qui sont les clients heureux, privilégiés, pouvant profiter de tous les services de l'hôtel, bien sûr en y mettant le prix. Puisque c'est un hôtel un peu de luxe, on va dire. Voilà, le Mystic Swan, il y a tout ça, vous pouvez jouer un rôle comme ça dedans. Au niveau des annexes, vous avez le plan du Mystic Swan Hôtel, avec vraiment des plans. Vous avez le rez-de-chaussée, le premier étage, jusqu'au troisième. Il y a vraiment des plans qui ont été faits. Et puis vous avez une annexe sur les privilèges. Et oui, parce que suivant votre groupe, vous allez avoir certains privilèges. Alors forcément, hein, les guests ont beaucoup de privilèges. Mais les autres aussi. Par exemple, ça peut être avoir une chambre personnelle, circuler librement à tel endroit, ou alors demander un spectacle privé. Voilà, par exemple. Vous avez également un Mystic Diary. Alors, un Mystic Diary, ce sont des notes qui sont dispersées dans l'hôtel. En gros, ce sont des rumeurs qui se passent dans cet hôtel. Voilà, et c'est une personne ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'appelle, je ne sais plus. Il y a Dole, il y a le mot Dole dedans, j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté. Et en fait, qui disperse quelques petites notes à droite, à gauche dans l'hôtel que tout le monde peut lire, du coup, et qui sont un petit peu des petites rumeurs qui circulent dans l'hôtel, voilà, pour pimenter un peu tout ça. Bien sûr, il y a des emails qui sont mis en place par le maître du jeu, et on peut lire les RP, ce qui est un petit peu bizarre, puisque c'est un forum qui est interdit aux moins de 16 ans. Oui, ça peut être un peu hot, hein, parfois. Et qui est déconseillé au moins de 18. Donc, c'est bizarre qu'on puisse lire les roleplays en général sur ce genre de forum. Mmh. Il les cache, il faut se connecter pour pouvoir lire les roleplays. Bon, pourquoi pas, hein, après. Voilà, en tout cas, Mystic Swan, très joli, en tout cas, graphisme. Hein, simple, mais efficace. Pourquoi pas y aller, voilà, et puis vous amuser un petit peu à l'hôtel Mystic Swan. Alors, il n'y a pas de ligne minimum, donc 25 membres enregistrés déjà depuis un peu plus d'un mois. Et comme je vous le disais, interdit au moins de 16 ans et déconseillé au moins de 18. Pour aller sur ce forum, vous tapez mystic-swan.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et vous avez le lien qui vous emmène à l'hôtel directement. Voilà. On passe à nouveau à la musique et ensuite tu vas nous parler d'une BD.
Oui, d'une suite de BD. On va parler du tome 5 d'une BD qui est vachement bien.
Que tu as déjà parlé.
Je crois que j'ai dû déjà en parler. Et puis on a parlé de la sortie ciné de cette BD, parce qu'elle a été adaptée.
D'accord.
On écoute les Dodos avec Werewolf in Love et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Elodie, donc tu nous parles d'une BD.
Oui, on va parler des Vieux Fourneaux. Donc le tome 5 qui est sorti il y a déjà quelques temps, c'était en fin d'année qu'il est sorti. Donc j'en avais déjà parlé, je ne sais plus de quel tome exactement. Ça a été adapté au cinéma, en tout cas je crois que c'est juste le premier tome ou un mélange du premier et deuxième, je ne sais plus, mais en tout cas il y a déjà une première adaptation qui a été faite. Et donc là le tome 5 est sorti, nous sommes donc de retour à Paris avec Antoine, Mimile et Juliette, et le plan est simple, ramener Juliette auprès de sa mère, puis filer au Stade de France pour assister au match de rugby France-Australie. Enfin, en tout cas, c'est du moins ce qui était prévu. Mais désireuse de voir son père et son grand-père se rabibocher, Sophie les oblige à s'occuper ensemble de la petite Juliette jusqu'au lendemain. Mimile ne peut donc pas compter sur Pierrot pour l'accompagner au match, et Pierrot, l'anarchiste, mène un nouveau combat. Il s'est engagé en faveur des migrants. Alors vous pensez bien qu'assister à un match opposant la France qui refuse d'accueillir les migrants à l'Australie qui ne pense qu'à les entasser dans des camps, bafouant ainsi les droits de l'homme, c'est hors de question. Mimile n'a plus pour seule compagnie que ses désillusions, et si lui aussi était bon pour l'asile. Donc voilà un petit peu le départ de cette bande dessinée, qui est, c'est toujours aussi bien, les Vieux Fourneaux. Enfin, j'avais trouvé qu'il y avait eu un petit coup de mou sur le tome 4, et là le tome 5 repart de plus belle. Du coup c'est très drôle, ils sont toujours attendrissants, et là effectivement c'est d'actualité puisqu'ils parlent des migrants et de comment leur donner un coup de main, comment les accueillir, comment on peut les aider. Donc la bande dessinée tourne beaucoup autour de ça, et c'est extrêmement bien raconté et très intelligemment amené. Et alors après, par contre, c'est de la BD très traditionnel franco-belge, hein, au niveau du dessin, de la mise en page, ainsi de suite, de la couleur. Mais voilà, on a envie de les avoir pour grand-père. Mais ça ne doit pas être toujours facile d'avoir des grands-parents qui sont prêts à mettre des bâtons dans les roues, des banques, et à créer des espèces de ligues pour aller emmerder les gens à la poste.
D'accord.
Bref, à s'occuper. Quand, oui. Ils occupent leur retraite. Donc voilà, c'est toujours bien, les Vieux Fourneaux. Je vous conseille évidemment de lire les 4 premiers.
C'est à chaque fois une histoire, en fait. Hein.
Alors, ça se suit. Il y a quand même une continuité dedans, même si ça raconte, effectivement, le sujet à chaque fois est un petit peu différent. Mais là, par exemple, dedans, donc, on retrouve la petite Juliette qui, dans le premier tome, est dans le ventre de sa maman et n'est pas née. Oui. Donc, il y a quand même une continuité. Donc, il vaut mieux avoir lu les premiers tomes. Et puis, ça vous permet, comme ça, de voir aussi l'évolution des personnages et de prendre le temps de s'attacher à eux. Et donc vous avez le film également, qui est sorti au cinéma l'année dernière, et qui était une pas mauvaise adaptation. Après, c'est pas aussi drôle que la bande dessinée, je me suis pas autant marrée, peut-être parce que je connaissais les gags, je ne sais pas. Mais voilà, donc Les Vieux Fourneaux, c'est sorti il y a pas longtemps, donc ça peut faire aussi un chouette cadeau, hein, 5 tomes à offrir.
Voilà. Donc c'est deux.
Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai pas cité les auteurs, c'est de Lupano et Coé.
D'accord. Voilà. Pas Coé,
Non, là c'est Coé avec deux U.
Ok.
Coué. Je sais pas si on prend le danse comme ça, voilà.
Très bien. On repasse à la musique et puis ensuite on parlera cinéma. Avec les sorties ciné à 3, encore plein de films, hein, à l'affiche. Avec également l'actu tournage. La petite rubrique Que sont-ils devenus ? Qu'est-elle devenue cette actrice de films de fin des années 90 ?
Je ne vois pas du tout.
Je m'en souviens plus qu'elle est devenue.
Qui est-elle ?
Je vous ferai un blind test, pour la peine, sur la musique du film. Et puis, on finira par une série, donc déconseillée au moins de...
Alors, on va parler un peu de sexe.
D'accord, voilà. Ok. On écoute Silverchair avec The Greatest View, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant aux sorties ciné à 3 avec le film Continuer, réalisé par Joachim Lafosse, avec
Virginie Efira et Casey Motet-Klein. Sibyl, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur Vatou en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seul compagnon, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu'hostile, ses dangers, son peuple et surtout eux-mêmes. Continuez, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Green Book sur les routes du Sud, réalisé par Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali et Linda Cardellini. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concert. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, il s'appuie sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Green Book sur les routes du Sud, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film cette semaine, La Mule, réalisé par Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper et Laurence Fishburne. À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui, en apparence, ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être un passeur de drogue pour un cartel mexicain. La Mule, c'est à voir actuellement au CGR A3. L'autre film qui sort, Les Fauves, réalisé par Vincent Mariette avec Lily Rose Depp, Laurent Lafitte et Camille Cotin. C'est l'été, quelque part en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les plus folles circulent, on parle d'un félin qui rôde. Laura, 17 ans, cherche à élucider le mystère et fait la connaissance de Paul, un étrange écrivain qui l'attire autant qu'il l'effraie. À mesure qu'il se rapproche, un amant et conduit de Laura disparaît à son tour. Les Fauves, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film également, Les Petits Flocons, réalisé par Joséphine Demeau avec Joséphine Demeau et Grégoire Ludig. Des sommets enneigés, le ciel bleu, en vacances à la montagne, Vanda ne peut pas skier, sa jambe a triplé de volume à cause d'une phlébite. Pas de veine pour une mannequin jambe. Pendant que son mari Thomas et leurs deux enfants s'éclatent sur les pistes, Vanda se console en s'occupant de son invité Samy, un ex-tolard fraîchement sorti de prison. Mais les moniteurs de ski et l'air de la montagne ont tôt fait de monter à la tête de tout ce petit monde. Les Petits Flocons, c'est à voir actuellement au CGR A3.
Elle a une phlébite, pas de veine.
Oui, bon. Ok. Autre film qui sort cette semaine, The Hate U Give, La haine qu'on donne, réalisé par George Tillman Jr. avec Amanda Stenberg et Regina Hall. Star et témoin de la mort de son meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par balle par un officier de police. Confronté aux nombreuses pressions de sa communauté, Star doit trouver sa voie et se battre pour ce qui est juste. Donc, La haine qu'on donne, c'est à voir actuellement également au CGR A3. Un film d'animation également qui est sorti le 22 janvier, My Hero Academia Two Heroes, réalisé par Kenji Nagasaki. Les examens finaux sont enfin terminés et les élèves de UA se préparent pour le camp d'été. Izuku et All Might reçoivent une invitation d'une certaine personne pour partir à l'étranger dans une immense ville ambulante appelée High Island. Dans cette île qui regroupe les connaissances de scientifiques du monde entier, se tient l'High Expo, un événement dédié aux résultats de recherche sur les haltères et les super-héros. My Hero Academia Two Heroes, c'est à voir actuellement au CGR A3. Également une sortie décalée, le film Colette, réalisé par Wash Westmoreland, qui est sorti le 16 janvier dernier, avec Keira Knightley et Dominic West, voilà, en sortie décalée. Et puis, des avant-premières, l'avant-première de Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud, avec Philippe Lachaud et Elodie Fontan. Ce sera vendredi 25 janvier à 20h15 en avant-première. Également l'avant-première du film d'animation Dragon 3, Le Monde Caché, réalisé par Dean DeBlois. Ce sera dimanche 27 janvier à 11h et 13h45. Et puis, voilà, donc en ce qui concerne ces films, Du côté de l'actu tournage, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est confirmé. Le film Kaamelott d'Alexandre Astier entre enfin en tournage. Oui, la légende disait donc vrai. Le film Kaamelott verra bel et bien le jour. Son créateur, réalisateur et interprète Alexandre Astier a brisé la glace en postant un tweet qui est devenu viral, où il écrit « Voilà où le tournage commence dans quelques jours, Kaamelott, premier volet ». Peut-on lire donc sur le tweet, accompagné de cela d'une jolie photo d'un paysage désertique, violacé, bleuté, capturé à la fin d'une journée, ou alors à l'aube. Un peu énigmatique, Astier ajoute une citation « Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros ». Voilà, c'est comme ça. On saurait quand même que Astier aurait écrit suffisamment de choses pour produire, non pas un film, non pas deux films, mais trois films. Oui, ce sera une trilogie parce qu'il pense qu'un seul film ne peut évidemment pas satisfaire ses fans. Le réalisateur a laissé un temps de côté le projet Kaamelott, hein, pour la bonne cause. En effet, il a pu compter sur les deux adaptations des aventures d'Astérix et Obélix pour aider à financer un petit peu ce film, qui va être un peu, je pense, colossal. Astérix, le domaine des dieux, qui a été réalisé par Louis Clichy et Astier et qui était sorti en 2014, qui a avoisiné en France près de 3 millions d'entrées. Et puis en décembre dernier, sorti la suite, Astérix, le secret de la potion magique, qui aurait aussi fait pas mal d'entrées. Et puis la série Kaamelott, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui a été diffusée entre 2005 et 2009 sur M6 et qui est devenue vraiment... un emblème de la télévision française, on peut dire.
Oui, on peut le dire.
Voilà. Elle raconte donc les péripéties, le quotidien du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde. Tous sont obsédés par la quête du Saint Graal, ralentis par les nombreux aléas de la gouvernance. Et en principe, le premier volet devrait sortir en 2020.
Mmh. Oui. Moi, j'ai un peu peur quand même, parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis Kaamelott. Je sais pas, on verra.
On verra. Pourquoi pas ?
Ils ont tous vieilli, hein.
Oui, mais bon, ça va encore, hein, ça va encore. Je pense qu'ils vont tous un peu près.
C'est quoi, il y a 10 ans plus que ça, Kaamelott ?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon. C'est pas. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, je pense que on peut faire confiance un petit peu à Alexandre Astier.
Oui.
Hein, il fait quand même des chouettes choses. Et puis, autre petite actu, Zombieland 2, on en sait un petit peu plus sur l'intrigue.
Ah, l'intrigue, je savais pas. Je sais que c'est le même casting, c'est ça, je crois.
Voilà. Donc ça fait depuis juillet de l'année dernière que bien la suite de Zombieland a été officialisée. Toujours donc avec Fleischer à la réalisation et le quatuor d'acteurs composé donc de Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson et Abigail Breslin. Alors si on savait que la famille recomposée allait revenir pour tuer du zombie, on ne savait pas encore trop vers quoi l'histoire allait s'orienter. Alors les personnages principaux, donc Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock iront à la Maison Blanche pour élire domicile. Une belle demeure, hein, donc pour affronter la fin du monde. Mais l'ambiance ne serait pas au beau fixe entre eux. Columbus et Wichita ne cesseraient de se disputer. Leur conflit entraînerait une dissolution du groupe avec Little Rock qui rejoindrait un certain Berkeley, interprété par Avan Jogia. Lorsque les autres découvrent sa disparition, ils se mettent à le chercher. Voilà. C'est alors qu'ils vont rencontrer trois nouveaux types de zombies. Les Homer, les Hawkins et les Ninjas. Très bien choisi, hein, les Hawkins, les Homer, les Ninjas. Bon. Alors les premiers sont définis comme idiots, hein, les Homer. Les seconds, les Hawkins, sont comme plus intelligents, un petit peu plus intelligents quand même. Et les troisièmes sont très meurtriers. Voilà. À tout cela s'ajoute aussi l'arrivée de Tallahassee, une chasseuse de morts-vivants. Zoé Deutsch a été annoncée dans le casting pour un rôle non déterminé à ce jour. Peut-être sera-t-elle, hein, cette nouvelle chasseuse. On attendra, comme souvent, des confirmations, hein, pour considérer toutes ces informations comme fiables. Mais si elles sont vraies, donc on pourrait peut-être avoir une grosse idée de ce à quoi le film va ressembler, hein, plus ou moins. Alors l'article mentionne, donc il y a un article qui est sorti et qui mentionne que Bill Murray, remarqué dans le premier film, devrait refaire une petite apparition accompagné de Dan Aykroyd, son camarade de SOS Fantôme.
D'accord.
Pourquoi pas. Bon, affaire à suivre. Donc bienvenue à Zombieland, ça sortira le 11 octobre dans les salles américaines et à la même période donc en France. Affaire à suivre également donc pour Zombieland 2. Et puis, on en arrive à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus cette semaine ? Donc, qu'est-elle devenue cette actrice de films de fin des années 90, vraiment fin des années 90 pour le coup. Et comme d'habitude, je vous fais un petit blind test pour voir si vous reconnaissez ou pas. Bon, alors Élodie, j'espère que tu vas reconnaître ce film. Alors, ça faisait comme ça. C'est très calme, c'est très doux et voilà, ça faisait comme ça.
C'est le même compositeur que Six Feet Under.
Alors, c'est un drame.
Oui, mais je vois, mais je ne retrouve pas le titre. Je l'ai en DVD, d'ailleurs. Et je sais, du coup, de qui tu vas parler. Dont je ne me souviens pas du nom. Je me souviens de Kevin Spacey.
Oui. Réalisé par Sam Mendes, sorti en 1999, vraiment en toute fin des années 90. Il y a Annette Bening, il y a beaucoup d'autres personnes également. Mais c'est vrai que ça reste Kevin Spacey et Annette Bening, les principaux acteurs de American Beauty.
Ah oui, c'est ça, American Beauty.
Voilà, donc alors l'histoire raconte l'histoire de la famille Burnham, qui semble être au premier abord une famille américaine ordinaire. Toutefois, le manque de communication et la frustration mènent vite à un dérèglement total. Le père, Lester, tombe amoureux d'Angela, la jeune et jolie copine de sa fille Jane. Caroline, la mère de famille, trompe son mari avec un agent immobilier qu'elle admire. Et de son côté, Jane se rapproche de Ricky, l'étrange fils du voisin. Qui filme des sacs plastiques qui volent.
Oui, sur lequel il y a cette musique d'ailleurs.
Oui. Ça, voilà. Et donc, de qui vais-je parler ? Eh bien, je vais parler de ce symbole d'American Beauty, cette couverture finalement. C'est la jeune fille dans les pétales de rose. Et c'est Angela, donc, dans le film, qui est interprétée par Mena Suvari. Mena Suvari, qui a aujourd'hui 39 ans.
Oui. Mon Dieu, elle est plus vieille que moi.
Voilà, actrice américaine donc, qui a tout d'abord non pas commencé par le cinéma mais par le mannequinat très tôt, à 12 ans. Elle a tourné divers spots publicitaires et puis elle a commencé également à faire des petites apparitions dans les séries de télé début des années 90. On peut noter Urgence, La vie à tout prix, entre autres. Et puis ensuite, elle arrive un peu plus tard au cinéma avec des films comme Le Collectionneur en 97. Et en 99, elle va tourner plusieurs films. Carrie 2, donc on peut-être oublié. Et puis deux autres films qui vont la rendre vraiment célèbre, American Beauty et American Pie. Voilà.
Ah oui, c'est vrai qu'elle joue aussi. Ouais.
Elle joue également dans American Pie.
Fantasme d'ado, quoi.
Bah non, mais... C'est un peu ça, oui. Voilà, sa carrière va un petit peu décoller grâce à ces deux films, surtout plus à American Beauty, parce que bon, ça reste vraiment le symbole finalement de ce film, cette jeune fille dans les pétales de rose, qui a été maintes fois repris dans d'autres films parodiques, hein, même. cette scène-là avec les pétales. Alors, elle a joué pas mal de films au cinéma. Elle a peut-être pas toujours bien choisi ses films parce qu'elle a tourné dans pas mal de séries B ou dans des films qui sont passés directement non pas au cinéma mais dans les bacs DVD. Ouais, c'est dommage parce qu'elle a eu une carrière quand même assez bancale, on va dire, avec des films qu'on peut vraiment oublier, qui sont vraiment des nanars. Non, c'est vrai. Elle enchaîne quand même, donc les films, elle en a fait pas mal. Et puis, on peut noter notamment D'Artagnan ou alors en 2005 Domino de Tony Scott. Bien sûr, les American Pie, il y a American Pie 1, 2. Alors, le 3, je crois qu'elle n'y a pas joué, et il y a le 4. Alors, je ne sais pas s'ils feront un 5, peut-être qu'elle reviendra.
Je crois qu'ils en ressortent un.
Oui, il me semble qu'il y a un 5 en préparation.
Il me semblait aussi.
Voilà. Bon. Bref, elle a tourné quand même pas mal de films cinématographiques qui ne sont pas sortis au cinéma ou pas sortis en France aussi, et qui sont sortis directement en DVD, parce que bon, voilà.
À côté de ça, elle l'a été du côté de la série. Et dans la série, donc, autre urgence, la vie à tout prix, elle a joué également dans un épisode de Six Feet Under.
Mais oui.
Oui. Dans la saison 4, elle joue le rôle d'Eddie. Voilà, je t'ai dit tout. Et puis, American Horror Story. Elle a fait plusieurs épisodes dans American Horror Story.
Ah oui.
Ouais, dans la saison 1. Et puis, je crois un peu plus tard, elle joue le rôle d'Elizabeth Short dans deux épisodes de la saison 1. Et je crois, l'année dernière, elle a également joué le même rôle dans un épisode d'American Horror Story. Voilà. Bien sûr, d'autres de séries, si on veut, qui sont pas forcément connues en France. Toujours. Je ne sais pas s'ils seront connus. Et puis, elle a également fait un petit peu de doublage, notamment pour un jeu qui s'appelle Kingdom Hearts 2, où elle a doublé Iris Gainsborough dans ce jeu. Bon, en version française, ça donne rien, forcément. Mais voilà. Donc, un petit peu de doublage. Mais bon, elle a peut-être pas toujours bien choisi ses rôles. Bon.
Peut-être qu'elle a décidé de pas choisir. Hein. On lui propose un truc, elle dit oui, elle y va.
Ouais, ouais, mais bon, c'est dommage.
Faut manger pour... dans la vie.
Ouais, bien sûr, mais il y a d'autres choses.
Oui, non, puis c'est dommage d'avoir commencé un peu sur les chapeaux de roue pour malheureusement pas avoir de rôle plus consistant, quoi.
Peut-être que là, avec American Horror Story, peut-être qu'on va lui proposer des choses.
Il était bien en plus son rôle dans American Beauty. Enfin, c'était intéressant.
Ouais, tout à fait. Voilà donc pour Mena Suvari. C'est vraiment une actrice que j'aime bien en plus.
Quand tu vois son nom, c'est la fille d'American Beauty.
Voilà, donc on passe à la musique et puis ensuite tu nous parleras d'une série.
Oui.
Oui.
On a parlé de sexe.
Ok.
Reste avec nous.
Très bien. Allez coucher les enfants. On écoute Dolly Commentaire et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'une série.
Oui, une série dont, enfin, en tout cas, si vous êtes un peu sur Internet, si même vous allez dans des salles de cinéma, parce qu'ils en font de la pub au cinéma, Netflix a sorti une série qui s'appelle Sex Education. Donc j'ai jeté un coup d'œil. Parce que ça m'interpellait, il y a plein de gens qui en parlaient sur Twitter, et aussi bien en bien qu'en mal, je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Donc on va voir la rebelle Maeve, tout court, qui entraîne Otis, un ado vierge, mais doté d'une mère sexologue, et ils vont créer ensemble une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée.
D'accord.
Voici le pitch de la série.
Tout un programme.
Tout un programme. Alors... Il y a 8 épisodes pour cette première saison. Moi, il m'en a fallu 4-5 pour que enfin j'accroche. En fait, au départ, je me suis dit, ouais, ok. Pff. Enfin, encore une série où, effectivement, on sexualise beaucoup les ados. Alors que si on se pose la question, si en tout cas, si vous n'êtes pas adolescent et que vous revenez un petit peu en arrière, moi, au collège ou au lycée, autour de moi, il n'y en a pas tant que ça qui avait sauté le pas. Mmh. Et on n'en parlait pas tant que ça non plus du sexe. Oui. C'était pas au centre de nos préoccupations. Là, dans leur série, il n'y a que ça qui compte. Et quand on y pense, même les anciennes séries comme Les Années Collège, par exemple.
Mais c'est une série américaine.
Sex Education ?
Oui.
Oui. Bah, je suis pas sûre qu'aux États-Unis ça soit. Si, tu penses que c'est plus.
Il y a eu quand même pas mal de films autour de ça, donc voilà.
Ouais, ok,
on peut penser
mais.
Au Sex Academy.
On a eu aussi des films français qui parlaient de ça. Hein.
Oui.
Mais bon. Pour autant, je suis pas sûre que ça soit. Enfin, effectivement, après, faut peut-être se mettre dans le cadre des Américains, mais on a beaucoup de séries qui sexualisent comme ça les ados qui deviennent de moins en moins adolescents d'ailleurs. Bon, après, ce qui est intéressant dedans, c'est que, alors au départ je me suis dit bon ok, voilà, c'est encore une série qui parle de sexe et effectivement ils essayent de s'accaparer un public d'ados qui va regarder ça pour en apprendre davantage, mais ils posent quand même des questions que l'on va pas, enfin comment dire, c'est plutôt des questions intelligentes sur le sexe.
D'accord.
C'est plutôt des questions sur à un moment il y a deux nanas qui essayent ensemble d'avoir un rapport sexuel et en fait il y a pas d'alchimie, il y a pas de, et elles essayent de comprendre pourquoi. Et du coup c'est pas forcément que du sexe pour le sexe, c'est aussi comprendre pourquoi il y a certaines choses qu'ils arrivent pas à faire, pourquoi il y a, enfin du coup il y a d'autres questions en dessous qui sont pas si inintéressantes que ça. Du coup, j'ai revu un petit peu mon jugement. Puis au fur et à mesure, voilà, moi, au bout de 5 épisodes, je me suis attachée au personnage. Et En fait, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver.
D'accord.
Donc il y aura une saison 2, je pense. Ah. Parce qu'a priori, ça a quand même du succès et que ça tend à avoir une saison 2. Et par contre, je n'avais pas du tout reconnu la mère de Otis, notre personnage principal, donc la mère qui est sexologue et qui est jouée par... super, j'ai oublié son nom. Scully, qui joue dans X-Files.
D'accord.
Gillian Anderson.
Oui.
Voilà, ça m'est revenu.
D'accord.
Et je ne l'ai pas reconnue du tout. Voilà, les c'est cheveux courts, tout blanc, je ne l'ai pas reconnue.
Ok.
Voilà. Donc une série, pourquoi pas, vous pouvez la regarder, c'est... Voilà, c'est...
Il faut regarder jusqu'au cinquième épisode.
Bah non, mais ça dépend, on n'est pas tous fichus pareil, mais moi il m'a fallu un peu de temps au départ, j'ai trouvé ça un peu navrant, mais voilà. Faites-vous votre avis dessus, mais en tout cas ça... Ouais, ils abordent quand même des questions au niveau du sexe qui sont pas inintéressantes. Voilà, c'est pas débile quoi.
D'accord.
Pas okay. Tout le temps.
Très bien. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, hein, le jeudi, toujours en direct 20h-21h, et puis le samedi en diffusion, oui. 13h-14h. Nos podcasts sont à jour.
Oui, toujours.
Voilà. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Twitter, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Également, si vous voulez être invité, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous voulez...
Oui, si vous voulez parler d'un sujet, de quelque chose que vous organisez sur Troyes, venez, on vous accueille.
Tout à fait, on ne meurt pas encore. On se dit à la semaine prochaine.
Et oui, je serai là, moi, en tout cas.
Tu seras là, et c'est parti, alors à la semaine prochaine. Et d'ici là, jouez bien, regardez bien des films, des séries, tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye.
Salut.